Chapitre 28. Quand M. de Mussidan avait quelques communications à adresser à sa fille, il faisait comparaître celle-ci devant lui pendant qu'il se rasait. Ce n'était pourtant pas l'heure où il se montrait à son avantage, car alors le col de sa chemise et ses cheveux rejetés en arrière, son menton plat, ses pommettes saillantes et ses larges mâchoires que les phrénologues attribuent aux égoïstes, étaient les traits dominants de son visage. Mais, avec sa fille, il n'allait pas se gêner sans doute. La tenue et la correction, c'était bon en public. Le lendemain matin, il appela donc Geneviève. « C'est la première fois, mon enfant, dit-il en faisant mousser son savon, c'est la première fois que tu vas te séparer de moi et avoir à agir seule, sans pouvoir me consulter dans les cas difficiles que tu peux rencontrer. Il est donc de mon devoir de père de te donner quelques petits conseils avant ton départ. « Assieds-toi. » Et lentement, il passa le rasoir sur le cuir. « Ce n'est pas un voyage de plaisir que tu vas entreprendre, et je dois te prévenir tout de suite que ton séjour à Cordes manquera d'agrément. Tu trouveras dans ta tente une vieille fille susceptible et égoïste qui exigera beaucoup de toi. Mais la pensée que tu es près d'elle pour gagner son héritage te rendra patiente et résignée, je l'espère. » Ce sera précisément à obtenir cet héritage que tu devras t'appliquer. D'abord, il faut obtenir sa tendresse et sa confiance. En ce monde, on aime qui vous aime. Tu devras donc témoigner une très vive affection pour ta tante, quand même tu l'exécrerais, ce qui arrivera peut-être, et je ne t'en blâmerai pas. En flattant ses manies, en disant comme elle, en la caressant, en prévenant ses désirs, tu réussiras facilement. Quand tu verras que tu la tiens, ce sera le moment d'agir. Autrefois, elle avait une peur effroyable de la mort. Avec l'âge, cette peur a dû se développer. Il est donc probable qu'elle t'entretiendra souvent de sa fin prochaine. Tu devras te garder de la rassurer. Cela serait inutile et même pourrait être nuisible. Ce n'est pas à nous de lui donner le calme de l'esprit. Tu diras comme elle, à ton âge, on est si loin de la mort qu'on en peut parler sans émotion et sans crainte. De la mort au testament, la transition est facile. » C'était en se savonnant qu'il débitait gravement ses instructions sans que Geneviève osât l'interrompre. Il fit une pause pour essuyer du coin de sa serviette le savon qui lui couvrait les lèvres de sa mousse blanche. Puis, tout en commençant à se gratter la joue, il poursuivit « Il est plus que probable qu'elle te parlera la première de son testament. » Mais si elle n'en faisait rien, tu pourrais prendre les devants en disant que, dans la croyance où j'étais qu'elle voulait te déshériter, j'ai pensé à te marier richement, n'oublie pas richement. Une fois que le sujet sera abordé, tu pousseras les choses à fond. Il faut que tu sois la légataire universelle de ta tante et il dépend de toi que cela soit. » Comme il se tenait le bout du nez pour se raser la lèvre supérieure, il fut forcé de s'interrompre, mais bientôt il reprit « Tu n'es plus une enfant, tu connais le prix de la fortune, et tu as pu voir qu'en ce monde, c'est elle qui nous fait ce que nous sommes. Une fille pauvre, si belle et si pleine de mérite qu'elle soit, ne peut avoir ni volonté, ni initiative, ni goût, ni liberté dans le choix de son amour. Elle est l'esclave de sa pauvreté. Une fille riche, si laide et si bête qu'elle soit, est maîtresse de sa vie. Il faut que tu sois maîtresse de la tienne. Quand, à ta beauté, à ton intelligence, à ta naissance, s'ajoutera la fortune, tu prendras dans le monde la position que tu voudras. Tu es une petite personne recueillie, tu n'oublieras pas mes paroles qui porteront fruit. Si tu te trouves quelquefois embarrassée, explique-moi ton cas, je te guiderai. Seulement, écris-moi d'une façon adroite, je te répondrai. Je vais te donner une maxime qui est le fond de la prudence et de la sagesse. Une lettre est comme un oracle. Il faut qu'on puisse lui faire dire oui ou non selon l'intérêt du moment. Maintenant, va rejoindre ta mère. Vous n'avez pas trop de temps pour que tes affaires soient en état. Ne perdez pas une minute. » La recommandation n'était pas inutile, car ce trousseau, qui allait tant bien que mal quand on pouvait le réparer tous les jours, était misérable pour un voyage. Geneviève avait bien promis à sa mère qu'elle s'arrangerait pour que les femmes de chambre de sa tante ne missent pas le nez dans ses affaires, mais pourrait-elle les en empêcher? Sur les derniers mots de son père, Geneviève était sortie et elle avait repris sa place auprès de sa mère. « Que t'a donc dit ton père ?» demanda Madame de Mussidan. Comme Geneviève ne répondait pas, sa mère la regarda. Elle vit son visage bouleversé. « Oh, maman, maman !» s'écria Geneviève, se mettant les mains sur la figure. Et elle fondit en larmes. Madame de Mussidan ne répéta pas sa question. Elle ne devinait que trop ce qu'il lui avait dit, et tout de suite, elle parla de Faré. N'était-ce pas le moyen le plus sûr de ne pas la laisser dans cette pénible émotion ? Dépêchons-nous, ma mignonne, car aussitôt que ton père sera parti, il faudra que tu ailles faire tes adieux à Madame Faré. Demain, nous n'en aurons pas le temps. Ils furent tristes, ces adieux, au moins pour Geneviève, car, mise au courant de ce qui se passait par son fils, Madame Faré était heureuse de ce voyage qui mettait fin au projet de mariage du marquis d'Arlanzon. Mais pour Geneviève, qui n'avait jamais voulu croire le marquis sérieusement dangereux, s'imaginant qu'elle n'aurait qu'à lui dire « Je ne vous aime pas » pour qu'il se retirât, elle était toute à la douleur de la séparation et à l'inquiétude de l'inconnu dans lequel elle allait entrer. Il fallait donc quitter cette maison où elle avait été si heureuse, ce jardin où chaque arbuste, chaque plante, chaque coin avait son souvenir. Il fallait dire adieu à cette salle de verdure qui, maintenant, avait de la verdure déjà festonnée de quelques fleurs de capucine. Il fallait aussi dire adieu à ces horizons bleus devant lesquels elle avait rêvé si souvent, imaginant sa vie pendant qu'il lui parlait. Quand reverrait-elle tout cela ? Quand reviendrait-elle sous ces ombrages ? Et Monsieur Quick-Quick, le retrouverait-elle vivant, le pauvre petit vieux ? Et pendant qu'ils marchaient côte à côte, lentement, il voulait qu'elle lui promît de lui écrire. Mais comment ? Savait-elle s'il lui serait possible de mettre une lettre à la poste ? Elle écrirait à sa mère souvent, très souvent, et ce serait par Madame de Mussidan qu'il aurait de ses nouvelles, comme ce serait par elle qu'elle en aurait de lui. Est-ce tout des nouvelles ? Direz-vous à votre mère que vous m'aimez ? Vous dira-t-elle que je vous aime ? Ah ! Ne m'enlevez pas mon courage ! Que voulez-vous que je fasse ? Venez ce soir, venez demain, venez le plus souvent que vous pourrez jusqu'au moment de mon départ. Elle devait être à la maison avant le retour de Monsieur de Mussidan. Il fallut se séparer. Peu de temps après que celui-ci fut rentré, et à l'heure où il se mettait habituellement à table pour dîner, on sonna brusquement à la porte. Geneviève alla ouvrir et trouva devant elle ses deux frères et Clara. « Ton père est là ? Il vient d'arriver. » Ils entrèrent tous les trois. « Vous voyez ? » dit Clara en montrant une malle qui se trouvait dans le vestibule. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » demanda M. de Mussidan en entr'ouvrant la porte du salon. Ils passèrent devant lui sans répondre. « Il y a que j'ai reçu une lettre de corde m'apprenant qu'Adélaïde vient chercher Geneviève. « Et nous vous demandons si vous permettez ce départ, » dit Sébastien. « Et pourquoi ne le permettrais-je pas ?» dit M. de Mussidan. « Parce que Geneviève n'irait à corde que pour être l'héritière de notre tante, » répondit Frédéric. « Et nous ne supportons pas qu'elle nous prenne notre part d'héritage, » continua Sébastien. « Ah ça, de quoi vous mêlez-vous ? » s'écria M. de Mussidan. « Mais de ceux qui nous regardent, » dit Clara en intervenant. « Vous aussi, vicomtesse. Espériez-vous donc que nous ne serions pas unis pour nous défendre ? Ce n'est pas moi qui envoie Geneviève à corde, c'est sa tante qui la demande. Ne la laissez pas partir, » dit Clara. « Mon devoir est de la laisser partir et je ne transige pas avec mon devoir. Notre devoir à nous est de sauver nos intérêts. Votre devoir est de me parler respectueusement. Respectez nos droits, nous respecterons les vôtres et ce n'est pas les respecter que d'envoyer Geneviève à corde pour que nous soyons déshérités. Croyez-vous donc que je vous préfère Geneviève ? À des majeurs, vous préférez une enfant de qui, pendant 3 ans, vous aurez les revenus, » dit Clara froidement. Du même geste, M. de Mussidan les enveloppa tous les trois. « Sortez !» Il s'éleva une clameur, et comme il vit qu'il n'était pas disposé à lui obéir, il passa vivement dans sa chambre où il s'enferma. Après avoir attendu assez longtemps, en discutant et en se querellant, ils furent bien forcés de se retirer. Geneviève croyait que son père la conduirait le lendemain, mais, un peu avant le départ, il lui déclara que les adieux l'attendrissaient trop. « Ta mère te conduira, » dit-il. Et, en l'embrassant, il ajouta tout bas, « Quand ta tante sera morte, prends tout de suite les clés. » Faré lui avait promis d'être sur le quai de la gare. Elle l'aperçut en effet, mais en costume de voyage. « Oh, maman !» dit-elle toute tremblante de joie, « il me conduit !» Mais, tandis qu'Adélaïde la faisait monter dans le compartiment des dames seules, il ne put que prendre place dans la caisse voisine. À Étampes, à Orléans, à Vierzon, à Limoges, à Brive, à Cap-de-Nac, partout où le train eut un arrêt suffisant, elle le vit sur le quai ou devant son wagon. N'ayant pu s'entendre avec elle avant le départ, il était dans un grand embarras, car leur express ne s'arrêtait pas à Vendrac, qui est la station de Cordes. Où descendrait-elle? Ce fut le matin à Lexos qu'elle quitta le wagon. Alors il quitta le sien aussi. Sans doute il y avait une voiture pour Cordes. Mais il se trompait. Il n'y avait pas d'autre voiture qu'une vieille calèche attelée de deux jolis chevaux de Tarbes, dans laquelle elle monta, après s'être retournée 20 fois, 100 fois de son côté, le visage éploré. Le cocher toucha ses chevaux du bout de son fouet. Ils partirent grand train et la calèche avait disparu dans la poussière que Faré était encore debout au milieu de la cour de la gare. Maintenant, quand la reverrait-il? Fin de la 3e partie.